Mégaphone.
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation
sociale et citoyenne.
Écologie,
économie sociale et solidaire. En pays nantais et au-delà.
Mégaphone. Le magazine de la rédaction de Jet.
Tous les mercredis à 18h et sur jetfm.fr.
Des années d'errance, de souffrance, de fatigue, de lassitude, de non-écoute, de mépris.
10 années de galère.
C'est une grande errance médicale qui continue encore aujourd'hui d'ailleurs.
Et en un mot, c'était juste horrible.
Jamais, jamais je n'ai fait le lien avec les échures.
Et ce qui est terrible, c'est qu'à aucun moment je me suis dit « et si ça pouvait venir des implants essures ?»
Les essures, ce sont deux petits implants en alliage métallique introduits dans les trompes de Fallope. Un moyen de contraception définitif présenté aux femmes comme révolutionnaire. Pas d'anesthésie générale, pas d'hospitalisation. La pose des essures pouvait se faire en quelques minutes seulement. Commercialisé par le laboratoire américain Conceptus, puis par le géant allemand Bayer, ils ont été implantés à plus de 200 000 femmes en France entre 2002 et 2017. En échange de formation et à grands coups de promesses d'innovation médicale, Bayer a réussi à faire de ses implants la technique de stérilisation de référence, avec la bénédiction de la Sécurité sociale qui en assurait le remboursement intégral à partir de 2012. Mais pour beaucoup de ces femmes, le miracle a été de courte durée. Et pour Sophie, Isabelle et Nathalie, les essures portent le nom de leurs incalculables douleurs qu'elles vivent au tréfonds de leur quotidien. Ces trois Bretonnes nous livrent l'histoire de leur souffrance et la lutte face à une multinationale et un État qui, depuis plusieurs années, avait des éléments pour alerter sur la toxicité de ces implants. Essures, des femmes cobayes en errance médicale. Un podcast propulsé par Splan et le sonodoc de Jet.
Je lui ai dit très clairement, il est hors de question que je revive ça. Je veux une ligature.
Isabelle a 54 ans, elle a été implantée en 2008 et est aujourd'hui présidente de l'association Alerte Contraception.
En 2008, j'étais déjà demandeuse depuis plusieurs années d'une contraception définitive, d'une ligature de trompe. Mais mon gynécologue trouvait que j'étais trop jeune et qu'il pouvait arriver quoi que ce soit dans ma vie et que je pouvais encore avoir des enfants. Et puis malheureusement, je me suis retrouvée enceinte en juin 2008 et j'étais en difficulté dans mon couple. Nous étions en train de nous séparer et donc il a fallu que je prenne une décision pour interrompre cette grossesse. Et là, ça a été pour moi une position de non-retour. Je lui ai dit, si tu ne me fais pas cette ligature, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Et donc, il m'a parlé des implants essures.
J'ai voulu un moyen de contraception définitif après avoir eu mes trois enfants.
Nathalie a 44 ans. Elle a été implantée en 2013.
J'ai été bien décidée après ma troisième grossesse. Et à l'époque, je voulais une ligature de trompe et en fait, on m'a présenté ça. Et puis moi, franchement, je ne me suis pas posé la question si c'était bien ou pas. Si on me le proposait, c'est que c'était bien.
L'idée de la ligature des trompes trottait dans ma tête depuis de nombreuses années, mais plusieurs fois, les gynécologues m'avaient dit que j'étais trop jeune.
Sophie a été implantée en 2010. Elle a 57 ans.
J'ai attendu qu'on m'enlève ce stérilet à hormones avec lequel j'avais des soucis pour reparler avec le gynécologue de la ligature des trompes. C'est là qu'elle m'a parlé des échures en me disant qu'elle préférait poser des échures. C'était plus simple, ça se faisait très rapidement, c'était pas invasif. Il n'y avait pas de raison de ne pas faire confiance et d'avoir des suspicions sur un problème particulier d'intolérance.
Oui, ce document, c'est le livret patiente. Changer tout sans rien changer. La stérilisation féminine à visée contraceptive. C'est la documentation qui était donnée aux patientes qui souhaitaient se faire stériliser. C'est de la com. C'est du marketing.
Moi, je ne connaissais pas ces implants. Il m'a expliqué que c'était relativement nouveau, que c'était assez facile à poser. Et surtout, moi, ce qui m'intéressait dans les implants, c'est qu'il n'y avait pas d'anesthésie générale. Donc, c'était un acte vraiment rapide, indolore, presque anodin. Et puis ensuite, il m'a expliqué qu'une fois qu'ils étaient posés, donc ça se faisait au bloc. À aucun moment, il ne m'a expliqué que ces implants étaient fabriqués avec des métaux. À l'époque, j'étais déjà allergique aux bijoux fantaisie, aux boucles de ceinture, aux boutons de jean. Donc, j'étais allergique au nickel. Or, moi, je n'ai absolument pas eu cette information. C'est clair que si on m'avait dit « Ah ben non, je suis désolée, c'est contre-indiqué pour toi », bon, on aurait fait une ligature classique. Mais la question n'a pas été posée.
Et c'était assez simple dans le sens où on s'était en ambulatoire, on était une heure ou deux à l'hôpital et on ressortait. En général, il le faisait toujours sous hypnose, sauf que moi, j'ai eu une grosse douleur quand il m'a mis l'implant gauche, je crois. Et en fait, ils ont fini par m'endormir. Pour moi, ça ne s'est pas spécialement bien passé. Après, ce qui m'a contrarié, c'est quand même de devoir me faire anesthésier complètement, alors qu'à la base, c'était juste une petite intervention toute anodine sous hypnose, voilà, qui ne devait pas être douloureuse en plus. C'est quelques mois après où mon corps a commencé à réagir, je pense, hein, parce que c'est pas par hasard que c'est arrivé comme ça, c'est pas possible.
Du jour au lendemain, des migraines sont apparues, donc il n'y avait pas d'explication. J'avais jamais eu de migraine de ma vie, j'avais une quarantaine d'années, on m'a dit que les migraines, de toute façon, on ne sait pas comment ça vient, on n'a pas d'explication réellement. C'est peut-être l'âge, l'approche de la ménopause, on peut en avoir, changement hormonal. Puis elles étaient quand même très fréquentes, donc ça m'arrivait de quitter le travail pour rentrer à la maison parce que les migraines étaient vraiment fortes. Les douleurs de dos, alors oui, j'avais un accident quand j'avais une vingtaine d'années, mais jusqu'à 44 ans, j'avais pas mal au dos.
Le plus flagrant, ça a été ma grosse crise d'hernie cervicale parce que bon, j'ai eu des douleurs qui sont venues petit à petit. Je les ai fait poser en juin et c'est en octobre de la même année que j'ai dû passer un IRM puisque j'avais des douleurs qui étaient de plus en plus intenses. Bon, pour passer un IRM, c'est que mes douleurs, elles étaient quand même là depuis un petit moment. Et on s'est aperçu que j'avais les cervicales qui étaient toutes abîmées. Alors encore une fois, c'était certainement déjà là, plus ou moins avant, parce que c'est pendant 3 mois que mes cervicales se sont abîmées comme ça. Mais mon état s'est quand même dégradé sérieusement, assez rapidement après ça.
Au bout de quelques mois, au courant du mois de novembre, j'ai commencé à avoir des problèmes respiratoires. Donc j'avais une toux sèche qui était là, sans vraiment avoir pris froid, pas de fièvre. Enfin, j'avais pas de symptômes, sauf la toux. Et j'ai commencé à avoir des démangeaisons sur le corps, au niveau du médiastin et au niveau de l'abdomen. On ne savait pas ce que c'était. Et là, le premier hiver, l'hiver 2008-2009, j'ai fait une pneumonie en février 2009. J'ai mis 3 semaines à récupérer. J'ai mis 2 mois derrière à retrouver de l'énergie et de la vitalité. Et malheureusement, au printemps et en été, je suis à nouveau tombée malade avec à nouveau des signes pulmonaires.
Quant aux problèmes urinaires, bah là, il n'y avait pas vraiment d'explication. Voilà, du jour au lendemain, j'allais 30 fois aux toilettes par jour, mais on ne savait pas pourquoi. Je me levais le matin, j'allais tout de suite aux toilettes. Je prenais ma douche. Avant de prendre le petit déjeuner, je retournais aux toilettes, donc juste après la douche. Je me préparais pour partir au travail, j'allais encore aux toilettes. J'arrivais au travail, je courais aux toilettes parce que je travaillais à 10 minutes d'ici en voiture. Mais quand j'arrivais là-bas, il fallait encore que j'aille tout de suite. La première chose que je faisais, c'était encore aller aux toilettes. Vous imaginez ? Il fallait réfléchir, calculer, enfin, c'était infernal. J'avais demandé au travail à avoir un bureau à côté des toilettes. Mes collègues me prenaient pour une folle des fois. C'était vraiment, c'était un enfer.
Après, il y avait aussi le problème des règles hémorragiques parce que moi, j'étais jamais gênée avant. Donc ça aussi, ça a été assez flagrant assez rapidement. Au moment des rapports aussi, des douleurs que je n'avais pas avant non plus. Et après, c'est une grande errance médicale. On ne sait plus pourquoi on a tout le temps mal quelque part. Les migraines, ça c'est pareil, des migraines, j'en avais constamment. Et des migraines qui étaient handicapantes au point de ne pas pouvoir sortir de chez moi. Ou quand j'arrivais du travail, j'étais complètement épuisée alors que j'avais pas de raison spécialement. Comme un vieillissement accéléré en fait. petit à petit, j'ai fini par ne plus pouvoir travailler autant qu'avant. Tout était compliqué. Ayant des enfants de bas âge, il y avait plein de choses que je ne pouvais plus faire avec eux. Les médecins réagissaient tout le temps en disant que j'étais quelqu'un de très stressé, que c'était normal, j'avais des enfants de bas âge, que j'étais fatiguée. C'était normal. C'est vrai qu'une femme de 35-40 ans, c'est normal qu'elle soit tout le temps fatiguée.
Et là, mon médecin traitant ne comprenait pas ce qui m'arrivait. Il me disait « oui, c'est peut-être la fatigue, c'est peut-être le contre-coup du divorce, tu fais beaucoup de choses. » Voilà, je travaillais, j'étais présidente de deux associations, j'étais très sportive et je voyais bien que je n'arrivais plus à suivre même le rythme sur l'activité sportive. En gros, voilà, c'était ça, c'était du stress et de la fatigue. Et puis en 2010, en septembre, je n'ai pas pu reprendre mon activité de danse et j'ai arrêté de courir, j'ai arrêté de nager, j'ai arrêté le violon. Parce que j'étais de plus en plus fatiguée. Et au mois de mai 2011, je me suis totalement effondrée. Je me suis écroulée un matin. Je me suis levée et je suis tombée dans les pommes. Et je me suis retrouvée aux urgences. Et j'ai été hospitalisée 5 semaines en neurologie, sans savoir ce qui se passait. Et avec un diagnostic de sortie d'un burn-out et d'un effondrement psychique. Et toutes mes douleurs musculaires, parce que c'était surtout ça qui était le plus difficile, j'avais très 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 mal dans les muscles. On ne sait pas ce que vous avez. On va dire syndrome d'intolérance musculaire à l'effort. Voilà, ça a été le petit mot qui a été, enfin la petite phrase qui a été notée dans le compte-rendu de sortie d'hospitalisation. Et puis mon état s'est dégradé, donc j'étais arrêtée pendant 4 mois. Et malheureusement, au bout de 3 mois d'arrêt, je n'avais toujours pas touché mes indemnités de maladie. Et en fait, l'assureur privé qui devait me les verser m'a dit qu'il ne le ferait pas. Et donc, il a fallu que je reprenne mon travail contre l'avis médical parce que j'étais en très grande difficulté financière. Donc, j'ai continué comme ça pendant 1 an et demi. Et puis, fin 2013, le neurologue m'a reproposé l'usage d'un fauteuil roulant. Et là, j'ai accepté. Et donc, je me suis retrouvée avec un fauteuil roulant pour tous mes déplacements. Je ne pouvais plus conduire, je ne pouvais plus faire le ménage. Enfin, le moindre exercice physique, c'était devenu un enfer, un vrai calvaire. Et les douleurs étaient présentes jour et nuit. Donc ça, c'était physiquement difficile et psychologiquement insupportable. Je ne me reconnaissais plus. J'étais dans un corps de vieille dame. Et là, j'ai vraiment cru que je m'éteignais à petit feu. J'avais, voilà, c'était ça.
Comme je travaille en pharmacie, j'avais fait une formation par rapport à mon travail. C'était donc sur la vie de la femme en général, et donc on parlait de tout ce qui était moyen de contraception, ménopause, tout ça. Et la formatrice, à un moment, a fait allusion aux implants, en fait. Et quand elle a parlé de ça, elle a dit « bon, je ne vais pas m'étaler sur le sujet des implants, c'est une grosse aberration de s'être servie des femmes comme cobayes ». Enfin, elle en a parlé très ouvertement comme ça. Et ce jour-là, j'étais d'une fatigue extrême, et je me suis dit « mais elle parle de moi, là ». Et elle m'avait donné son mail et dès le soir, j'ai envoyé un mail en lui expliquant ma situation. Et elle me dit, non mais là, vous prenez tout de suite contact avec votre gynéco et puis vous voyez pour les faire enlever vos implants là.
En 2016, je partais justement en déplacement pour mon travail. J'étais dans l'avion et je découvre un article dans un journal national, un petit article sur la problématique des échures et ce scandale sanitaire. Donc ça m'a effectivement interpellée. J'ai cherché des informations sur Internet. J'ai découvert l'association Résiste, j'ai découvert le témoignage de nombreuses femmes. Et à l'époque, je me suis dit, bah, finalement, j'ai quand même de la chance parce que je n'ai pas ces problèmes graves qu'ont certaines patientes.
Un jour, je reçois un lien de change.org avec un témoignage d'une femme qui parle de son calvaire sous essure. Et là, j'arrive sur une page qui s'appelle Essure France Alerte. Et je lis, il n'y avait pas beaucoup, hein. Il y avait peut-être 5-6 témoignages de femmes. Et dont une femme qui raconte son calvaire au quotidien. Et j'ai l'impression qu'elle parle de moi. Je lis son témoignage et je me dis, mais je pourrais presque remplacer son prénom par le mien. Tellement il y a de similitudes entre ce qu'elle décrit et ce que moi je vis.
Donc là, je vais voir un gynécologue qui me dit, écoutez, ne tombez pas dans la psychose, ne faites pas forcément le lien avec ça, il y a tout plein d'autres problèmes. Il me parlait des traitements substitutifs hormonaux, qu'il y avait plein de personnes qui se plaignaient de ça, alors que ce n'était pas forcément justifié pour tout le monde. Et donc, il me dit, je vous fais faire un IRM pour voir s'ils sont bien posés. S'ils sont bien posés, c'est que ça ne vient pas de ça. Donc, j'ai fait un IRM, les implants étaient bien posés, en effet. Mais ça n'empêche que j'avais toujours les problèmes. Donc après, j'ai continué à me dire, bah non, c'est qu'il y a autre chose. 2 ans après, je suis revenue sur ça en me disant, non, mais c'est pas possible. Et là, par contre, mon état de santé s'était bien dégradé. Et j'étais des mois et des mois en arrêt de travail. Enfin, j'étais en dépression, enfin, j'étais vraiment pas bien.
J'avais des douleurs dans le bas du ventre. Mon médecin m'avait demandé de faire une échographie et la radiologue me dit « Mais vous êtes ménopausée, madame, vous n'avez pas enlevé votre stérilet ?» Je dis « Mais j'ai pas de stérilet. » Elle me dit « Mais vous avez quelque chose dans l'utérus ?» Donc ça m'a un peu inquiétée. Et je lui dis « Mais non, j'ai rien dans l'utérus. » Et puis je lui dis « Ah, mais c'est vrai, j'ai des échures, mais elles sont dans les trompes, pas dans l'utérus. » Et là, elle me dit « Bah, d'après l'échographie, on a l'impression que l'échure est dans l'utérus. » Elle me dit « Il faut être vigilante parce que il y a peut-être un risque de perforation, donc consultez rapidement. » C'est là que je me suis dit, oula, mais c'est quoi ce bazar? Enfin, je comprends pas. J'ai donc pris contact avec Émilie de l'association Résiste. Je lui ai expliqué mon problème. J'ai décidé d'adhérer donc à l'association. J'ai eu la liste de tous les effets secondaires. Et là, j'ai découvert sur la liste que je me retrouvais dans certains des effets secondaires, effectivement, dont la problématique urinaire. C'est à ce moment-là que j'ai fait le lien, en fait, en me disant, mais peut-être que mes problèmes sont liés à cela. Mais enfin, comment le prouver? Donc, j'ai appelé mon médecin. Je lui ai demandé de faire des recherches. Comme elle me suit depuis 20 ans, c'était facile pour elle de faire un peu d'archéologie dans mon dossier. Et elle m'a dit, bah, écoutez, la première fois que vous m'avez parlé de migraines, de douleurs de dos et de problèmes urinaires, c'était entre 2010 et 2011. Ayant été implantée en 2010, si mes problèmes étaient bien liés aux échures, j'envisageais une explantation le plus rapidement possible.
Et donc là, je suis allée tout de suite voir mon neurologue, qui m'a dit très clairement, non, mais je fais un courrier tout de suite pour votre gynécologue, il n'y a pas de souci. Je suis allée voir le gynéco en urgence, et lui, il m'a dit, bien sûr, s'il y a ne serait-ce qu'une chance sur 1 million que ce soit ça, de toute façon, il faut les enlever. Vu l'état dans lequel tu es, on n'a pas le choix. Il faut les enlever. C'est là où j'ai commencé vraiment, moi, à compulser des données parce que je me suis renseignée sur comment les enlever. Parce que là, je m'étais dit, je ne m'étais pas renseignée sur comment les implanter, mais je ne voulais pas faire n'importe quoi. Donc, j'ai pris beaucoup, beaucoup de renseignements auprès des Hollandaises, auprès des Américaines, pour savoir comment les enlever. Et quand je suis venue au rendez-vous du gynécologue, du chirurgien, qui me les avait mis, pour lui demander une explantation, il m'a dit que c'était pas possible, que ça pouvait pas venir de ça. Il y avait absolument pas de lien entre ce que je vivais et les implants. Mais comme j'étais une personne relativement sensée et qui se souvenait très bien de moi et de mon implantation sans anesthésie générale, il voulait bien me les explanter. Et c'est là que je lui ai dit, voilà, je veux qu'on fasse comme ça. Et c'est moi qui lui ai dit comment les enlever. Donc je lui ai dit, je veux une extraction par voie basse. On ne coupe pas, on ne tire pas, on ne casse pas les implants. On prend tout d'un bloc en monobloc et on laisse juste les ovaires. Oui, mais vous savez, votre utérus, il n'est peut-être pas abîmé. Je verrai sur... Non, je veux dire, vous ne verrez rien du tout. Je veux ça. Si vous ne faites pas ça, vous ne m'opérez pas. Et donc, il a accepté.
Donc, j'ai pris rendez-vous avec la gynécologue qui me suivait, qui n'était pas celle qui m'avait implanté les échures, puisqu'elle avait été absente. Et je lui ai demandé de m'explanter en lui présentant mon problème. Et je n'ai pas été prise au sérieux. Elle me dit, mais vous savez, les échures, si on regarde l'effet bénéfice-risque, les échures ont apporté énormément à de nombreuses femmes. Donc il n'y a qu'un pourcentage très très faible de femmes qui ont des problèmes. Et de toute façon, comment pouvez-vous prouver que les problèmes que vous me décrivez sont liés aux échures? Vous ne pouvez pas le faire. Si vous voulez que je vous les enlève, les échures, je vais vous les enlever. Mais on est là sur une opération de confort. Donc, en période de crise Covid, on verra ça quand la situation sanitaire ira mieux. Il fallait donc que je trouve un chirurgien qui m'opère, quelqu'un en qui j'avais confiance, parce que je savais que l'opération était assez délicate.
Lorsque j'ai pris rendez-vous avec le gynécologue, donc en janvier 2020, là, j'étais bien décidée à faire enlever les implants, mais j'avais qu'une appréhension, c'était qu'il me dise « mais attendez, ça ne vient pas de ça », comme on m'avait dit 2 ans auparavant. Sauf que là, bizarrement, j'ai eu un propos complètement différent. J'ai été 3 minutes dans son bureau, il ne m'a même pas demandé pourquoi je voulais les enlever. Il ne m'a même pas demandé quel était mon parcours, rien du tout. Il m'a dit « ok, je vous les enlève ». Il dit, nous, moi non plus, j'étais pas au courant des soucis qu'il y avait, donc vous vous êtes fait avoir, mais moi, nous aussi. Il m'a pas parlé de protocole. Moi, j'ai pas osé lui en parler parce qu'il paraissait tellement sûr de lui. Et puis, ben, franchement, moi, quand je suis allée au rendez-vous, je tremblais de partout parce que j'avais peur d'être jugée, comme à chaque fois quand j'en parlais à tel ou tel spécialiste. Je l'ai trouvé très. Enfin, on va dire qu'il m'a pris de haut, il était très sûr de lui. Et donc, de là, il m'a posé une date et 2 mois après, il me les retirait.
J'avais connaissance du protocole d'explantation, puisqu'Émilie m'en avait parlé. J'ai été très très bien conseillée et accompagnée par l'association Résiste. Je ne lui ai pas demandé s'il l'appliquait ou pas le protocole, mais ce qui m'a énormément rassurée, c'est qu'il m'a bien évoqué l'ensemble des risques, il m'a parlé de la casse, mais il m'a dit, voilà, moi aujourd'hui je pars, donc si vous êtes décidé, on part sur une salpingectomie, l'ablation des trompes. Donc d'après lui, la position des implants était bien dans les trompes, même si un dépassait dans l'utérus, mais ils étaient quand même plutôt bien placés au niveau des trompes. Donc on coupe les trompes et on laisse l'utérus. Et il me dit, si jamais il y a besoin ensuite de réaliser une intervention sur l'utérus, ça se fera dans un second temps. Ça se fera avec votre consentement. Et j'ai décidé donc de me faire explanter là-bas à la clinique de Quimper.
Quand on est rentré dans le bloc opératoire, je lui ai dit par contre, vous ne me loupez pas, parce que j'ai quand même entendu pas mal de témoignages où les gynécos loupaient les femmes et laissaient un morceau, quoi. Ah non, 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 mais vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Et lorsqu'il m'a opéré, il est venu me voir dans ma chambre 2 heures après. Il m'a dit, tout s'est bien passé, très bien. J'ai fait une radio de contrôle 3 semaines après, il y avait un petit morceau. Je suis allée le voir après, quelques semaines après. Donc lui, il me dit « Non, non, c'est pas un petit morceau ». Alors il me faisait croire que c'était un résidu de compresse qui était resté dans mon corps. J'ai refait une radio suite à sa demande. Et donc là, j'ai rappelé pour avoir un rendez-vous. Il a refusé de me voir. Il a même pas daigné m'appeler. Il a juste dit à sa secrétaire de me dire « Non, non, vous lui dites d'attendre. Ça dépend comment elle se sent. Si elle se sent bien, elle reste comme ça. On se revoit dans 6 mois ». Et donc je suis jamais retournée le voir, en fait. Et puis malheureusement, on croit qu'on passe à autre chose dès le lendemain du retrait. Et au final, moi, la galère, elle a continué, quoi.
À la sortie de l'intervention, quand il est venu me voir, il m'a dit « Écoutez, je suis très surpris. Vous aviez un utérus qui était pratiquement plus gros que mes 2 poings réunis, que j'ai eu beaucoup de mal à extraire par voie basse. Il a vraiment fallu que je tire un peu dessus. Et qui était très dense, très 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 nervuré et rempli de fibrines et d'anénomiose. » Il me dit « C'est impressionnant pour un utérus de votre âge, quoi. On voit ça chez des femmes qui ont 75 ou 80 ans, quoi. »
L'opération a eu lieu au mois d'août 2020. Une des échures a cassé. Quand il a analysé les échures, il s'est rendu compte qu'il manquait un tout petit bout. Et c'est le bas de l'échure, c'est un petit morceau de titane qui s'est cassé. Il m'a demandé si je souhaitais être réopérée. Et à ce moment-là, il aurait fallu sans doute enlever une partie de l'utérus. Mais lui me déconseillait. Il me disait que vraiment le petit bout qui restait ne devait pas poser de problème. J'ai aussi beaucoup réfléchi, je me suis beaucoup renseignée sur la matière. Enfin bon, on est là sur du titane. Le corps supporte plutôt pas mal. J'ai décidé de vivre avec.
Lorsque je me suis aperçue qu'il restait un morceau d'implant, donc là j'ai pris pour le coup contact avec Résiste. C'était Émilie, la présidente, qui m'a envoyée vers d'autres personnes qui avaient été dans le même cas. Et par le biais de ces personnes-là, j'ai pris contact avec un gynécologue de Plérin, à côté de Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. J'ai eu un rendez-vous assez rapidement. Et alors lui, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il n'a pas été dans le jugement de me dire « Mais pourquoi vous voulez vous refaire à nouveau opérer pour un si petit morceau ?» Parce qu'il a complètement compris que, ne serait-ce que psychologiquement, je ne pouvais pas rester comme ça. Et ça a été assez rapide parce que je l'ai vu en août 2020 et en octobre, il m'opérait. Donc là, il a fait un contrôle scanner, lui par contre, pour savoir où était situé le morceau. Et donc le morceau était hors de l'utérus, il était derrière l'utérus, à la base de la colonne vertébrale. Il m'avait dit que normalement ça ne pouvait pas bouger là où il était, sauf que lorsque j'ai été opérée, l'opération a duré beaucoup plus longtemps que prévu, puisque en fait le morceau avait migré en 1 mois. Ça, c'est comme m'a dit le gynécologue qui me l'a retiré, que c'était mon petit trophée, parce que pour lui, j'ai été bien courageuse de retourner me faire opérer pour enlever une si petite chose, mais qui pour moi a été hyper importante. C'est en fait une des extrémités du deuxième implant, qu'on n'a d'ailleurs pas retrouvé dans l'analyse suite à la première intervention, et donc qui fait quand même 3-4 mm, un petit morceau bien piquant qui se baladait dans mon abdomen, quoi, après la première intervention. J'ai eu beaucoup de mal à me remettre de cette deuxième intervention. Et par contre, j'étais, on va dire, soulagée psychologiquement de l'avoir enlevé. Et après, physiquement, ça a été très dur. Mais je me sentais libérée malgré tout.
Le lendemain de mon intervention, pourtant j'étais pas fraîche, hein, parce que j'avais quand même une hystérectomie, donc avec une anesthésie générale et puis une intervention assez lourde, je me suis levée toute seule de mon lit. Ça faisait 4 ans que je ne pouvais plus le faire. C'est-à-dire que ça faisait 4 ans que tous les matins, c'était mon mari qui me soulevait du lit pour me mettre debout. Parce que je ne pouvais pas, moi, toute seule, sortir du lit. Je ne peux pas vous décrire ce qu'on ressent à ce moment-là, quoi. C'est indescriptible. Alors, bien sûr, ça n'a pas été, en 8 jours, allez, vas-y, et on y retourne, et je marche, et je cours. Bien sûr que non, il m'a fallu des mois. J'ai dû arrêter le fauteuil roulant, je l'ai rendu en janvier 2017. Ce qui était extraordinaire, c'est la fatigue. La fatigue, c'est du jour au lendemain. C'est impressionnant. Et puis après, moi, je n'ai fait que remonter. Par contre, j'ai des séquelles.
Ce que j'attends, c'est que l'État prenne enfin ses responsabilités, informe les femmes. J'attends également de la part des gynécologues qui ont posé ce dispositif de reconnaître qu'il y a un problème, qu'ils aient un peu de considération pour les femmes qui viennent les voir. Parce que ce n'est pas toujours le cas.
Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soit plus connu par les professionnels de santé, qu'ils soient plus au courant de ce qui se passe, qu'ils soient dans l'empathie aussi, parce que le nombre de fois où j'ai rencontré des médecins, déjà d'une qui ne savait pas ce que c'était que les implants Essure, alors j'étais en train de leur faire un cours sur ce mode de contraception, alors ça je trouve ça quand même aberrant, il y a quand même 200 000 femmes en France, je trouve ça quand même incroyable de ne pas connaître ça, quoi. Ce que j'aimerais, c'est que les femmes qui sont porteuses de ces implants-là soient toutes mises au courant de la possibilité d'avoir des soucis de santé. Celles qui n'en ont pas, tant mieux pour elles, mais après, je ne suis pas convaincue que ça va durer dans le temps. Quand on voit les analyses qui sont faites sur ces implants-là, si ça se dégrade dans le corps d'une femme, ça se dégrade dans le corps de 200 000 femmes, et dans beaucoup plus que ça dans le monde, il y aura forcément des conséquences à long terme. Moi, j'estime avoir de la chance d'avoir pris ce problème-là au sérieux. Et peut-être que là, j'ai un passage où je ne suis pas en bonne santé, mais je pense que je vais mieux vieillir que d'autres femmes qui vont garder les implants, parce que bon, normalement, on avait ça jusqu'à la fin de notre vie. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui était prévu être retiré. Et après, qu'il y ait une bonne prise en charge, qu'il n'y ait pas de soucis pour les explantations, que les gynécos ne fassent pas n'importe quoi. S'ils ont besoin d'être formés pour ça, qu'ils y soient. Enfin, on n'est pas des bêtes, quoi. Franchement, il y a une période, les deux opérations, j'avais vraiment l'impression d'être une bête.
On est 3 associations en France et les 3 associations s'entendent là-dessus. On réclame qu'un courrier soit envoyé à chaque femme porteuse d'implant pour lui dire « Si vous présentez au moins 5 de ces signes-là, on met les 10 ou les 15 plus importants, merci de prendre contact avec votre gynécologue. Vous avez peut-être un syndrome ASIA ou en tout cas une intolérance à l'implant et il serait peut-être important que vous puissiez les enlever. » On réclame ça depuis 5 ans, 2016. On est en 2022, ça va faire 6 ans. Et on nous dit, depuis 6 ans, « Ah non, c'est pas possible parce que ça va créer un effet de panique. » Mais là, je leur dis aussi, « Mais vous prenez les patientes pour des bécasses, là aussi. Elles n'ont pas de cerveau. Vous croyez sincèrement que des femmes qui sont en bonne santé, qui n'ont absolument pas de soucis, vont aller se faire enlever un utérus et des trompes juste parce qu'on leur dit que peut-être qu'un jour, elles vont être malades ?» Enfin, on prend les femmes pour quoi, là? Par contre, toutes celles qui sont en errance médicale et qui ne savent pas encore, parce que c'est toutes les semaines qu'on a des nouvelles arrivées sur nos associations, dans les groupes Facebook. J'ai lu votre témoignage, j'ai lu un article, toutes les semaines. Et vous ne croyez pas que ces femmes-là, par contre, on gagnerait du temps pour elles? Et encore une fois, ce sont des êtres humains, on ne parle pas de boîtes de conserve, quoi. C'est criminel. Moi, je l'ai déjà dit en comité scientifique et je l'ai dit comme ça. C'est criminel de ne pas le faire. Et je ne vous parle pas des décès. 53 décès en octobre 2020, recensés, de femmes porteuses d'implants et sûres. Pourquoi sont-elles mortes? De quoi sont-elles mortes? Et puis bizarrement, depuis, on n'a plus de chiffres. Pourquoi?
Retrouvez l'ensemble de l'enquête sur les implants et sûrs sur splan.org. Un grand merci à Isabelle, Sophie et Nathalie pour leurs témoignages. Merci également aux associations Résiste, Alerte Contraception et Victimes DMI pour leur aide précieuse. Écriture, entretien et prise de son, Rosane Le Carboulec. Réalisation, Julie Ozou. Coordination, Faustine Sternberg, Juliette Cabasso-Roger. Musique, Glebandi. Avec le soutien du Sonodoc de Jet. Vos dons nous permettent d'enquêter. N'hésitez pas à soutenir l'information indépendante en Bretagne. splann.org.
Vous venez d'entendre le documentaire « Et sur des femmes cobayes en errance médicale ». Et pour compléter un petit peu, eh bien nous recevons aujourd'hui à distance Juliette Cabasso-Roger, cofondatrice de Splan et qui a coordonné cette enquête. Bonjour Juliette.
Bonjour.
Alors est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots ce qu'est Splan ?
Alors Splan, c'est une association, une ONG si vous voulez, qui fait de l'investigation au long cours en Bretagne.
Donc, investigation, c'est né de difficultés à pouvoir justement eh bien, traiter de certains sujets journalistiques en Bretagne, du fait notamment de pression ou de manque de financement.
Oui, tout à fait. La naissance de notre association, c'est justement des journalistes qui se sont réunis autour de cet objectif, c'est-à-dire de sortir des informations qu'on estimait qui n'étaient pas assez mises en lumière en Bretagne, notamment avec l'exemple de la journaliste Inès Léraud qui a signé la BD sur les algues vertes, qui sont interdites. Qui est membre de Splan aussi.
Et qui avait reçu des menaces à l'époque pour son travail d'enquête. On précise simplement que Splan est financé uniquement par des dons de particuliers.
Oui, tout à fait. En plus, on a été reconnu comme média officiellement, donc avec un numéro CPPAP, qu'on appelle ça. Et donc, on a été lauréat aussi pour du Fonds pour la presse libre, qui nous aide un petit peu aussi.
Voilà, donc en tout cas un modèle économique qui se veut garant de cette indépendance et de la capacité à mener des enquêtes. Celle qui a concerné est sur quels moyens a-t-elle nécessité? Combien de temps y a-t-il eu de travail et d'investigation pour pouvoir eh ben, donner lieu notamment au documentaire qu'on vient d'entendre?
Alors, est sûr, ça a officiellement débuté il y a presque un an, en novembre 2021. Et le travail s'est étalé en fait, de façon un petit peu en pointillé, j'ai envie de dire, sur toute cette année. Et elle a nécessité plusieurs mois, en tout cas, de travail. Et on est sur un budget à peu près de 20 000 euros en comptant donc, les journalistes qui sont rémunérés au temps de travail et non à la pige, plus ensuite les relectures avocates, les photographes éventuels, etc.
Pourquoi avoir choisi de travailler sur ce sujet des implants et sûr? Pour le moment, Splan s'était plutôt positionné sur des sujets liés à l'environnement, à l'agro-business en Bretagne. Là, c'est un pas de côté. Pourquoi?
Alors, c'est vrai que ce n'est pas dans nos sujets habituels. Après, on ne s'est jamais interdit de traiter n'importe quel sujet qu'on estimait important. Et en fait, celui-là, il est venu d'une lanceuse d'alerte, en fait, donc Isabelle Ellis, qui témoigne dans notre enquête. Une des victimes, et donc c'est à travers elle en fait qu'on a eu cette histoire bretonne aussi qui concernait les implants et sûrs. Et donc en réunissant toutes les informations qu'elle nous avait transmises, on a décidé d'y aller quand même parce qu'on estimait qu'il y avait vraiment un besoin et des informations nouvelles à sortir sur ce sujet avec en plus une histoire bretonne. Et donc l'objectif c'est vraiment de qu'il y ait un maximum de femmes qui puissent la lire et qui du coup soient au courant des problèmes autour des implants.
Est-ce qu'il y a pour Splan des risques associés à cette enquête? Alors je pense à des risques juridiques notamment.
Alors je pense que c'est le principal risque, c'est le risque d'attaque en diffamation. C'est pour ça qu'on fait relire aussi nos enquêtes par une avocate avant publication. Donc a priori, même si on est attaqué, on devrait pouvoir se défendre correctement. Mais c'est vrai qu'on a toujours un risque, quand on fait de l'investigation, de décrire une approximation. Et c'est un peu notre plus grande hantise. On vérifie vraiment encore et encore et encore pour être sûr que toutes les informations qu'on publie sont 100% vraies, vérifiées, pour justement être irréprochables.
Quelle a été la couverture médiatique concernant ces implants Essure ? Est-ce qu'aujourd'hui, l'enquête que vous proposez, finalement, est un peu inédite ? Qu'est-ce qu'elle vient ajouter ?
Alors nous, pour notre part, on révèle dans cette enquête un document, notamment, qui n'avait pas été rendu public jusque-là, qui est un document interne à l'Agence du médicament, à l'ANSM, daté de 2017, en fait, où un expert pointe déjà un risque de corrosion de l'implant et donc de sa toxicité. Et donc, on montre, en fait, tout le système qui fait qu'il n'y a jamais eu véritablement d'alerte, notamment auprès des femmes concernées, concernant l'implant, alors que l'ANSM avait ce document en main déjà en 2017.
200 000 femmes à qui on a posé ces implants Essure. Alors, sans dévoiler un peu toute l'enquête, hein, qui est retrouvée en ligne aussi sur votre site internet, il y a deux revendications qui sont portées par les associations mobilisées sur le thème aujourd'hui, qu'on entend dans le documentaire. La première, c'est que les femmes soient informées des risques liés à ces implants. Où en sont ces revendications aujourd'hui ?
Pour l'instant, elles sont toujours au point mort. C'est vraiment une des, la principale revendication des associations, et ça fait plus de 6 ans qu'elles le demandent, c'est qu'il y ait un courrier nominatif, en fait, à toutes les femmes qui sont toujours implantées des Essure, qui les préviennent de s'il y a X symptômes, merci de consulter un gynécologue. Et en fait, c'est toujours une démarche que l'Agence du médicament refuse de faire, ainsi que le ministère de la Santé, pour éviter ce qu'ils disent être un effet de panique. En fait, ils disent avoir peur de que les femmes aillent se faire explanter et donc retirer une partie du trompe ou de l'utérus juste parce qu'on leur a dit que peut-être il y aurait un problème avec l'implant, ce qui est quand même prendre les femmes pour des êtres pas capables de faire leurs propres décisions.
Donc, depuis que vous avez recueilli les témoignages d'Isabelle, Sophie et Nathalie, la situation n'a pas bougé pour le moment. Quid de la formation des médecins, notamment pour pouvoir extraire correctement les implants ? Ça n'a pas bougé non plus ?
Eh bien, elle n'a pas bougé non plus, sachant qu'il existe un protocole d'explantation qui a été mis en place par le ministère, mais pour l'instant, on en est toujours à ce point-là aussi.
Là, on vient d'entendre une version sonore de votre enquête Essure des femmes cobayes en errance médicale, mais il y a tout un dossier en ligne sur votre site internet. Quel complément d'information est-ce qu'on peut y trouver ?
Alors, on va y trouver en détail déjà les données techniques de l'implant, combien de femmes ont été implantées, combien de femmes ont été explantées et comment ça s'est passé. On va retrouver plus en profondeur aussi l'histoire d'Isabelle et Sidonie Réveillon, une chercheuse brestoise qui se sont battues, qui sont toujours en train de se battre d'ailleurs, pour que des études soient menées plus en profondeur sur les implants. On y retrouve également forcément le document qu'on révèle et toutes les informations et témoignages qui sont autour, mais aussi le système de l'ANSM de vigilance finalement concernant ces dispositifs médicaux qui a de nombreuses failles, comme le soulignent même des députés européens.
Pourquoi avoir choisi de faire une version sonore de cette enquête et comment est-ce que vous avez conçu la complémentarité entre ce qui est disponible en ligne et puis ce qu'on vient d'entendre ?
Alors à Splend, on a vraiment la volonté de développer les formats du multiformat, que ce soit sonore, web, images, dessins, infographie. On trouve que on a cette richesse-là de pouvoir faire ça sur le web et ça donne en fait finalement beaucoup de portes d'entrée différentes sur un même sujet. De personnes par exemple qui vont pas forcément vouloir lire des longues enquêtes écrites, ça leur donne une porte d'entrée par le sonore, qui est parfois plus accessible. Et donc pour cette enquête, nous, on n'explore pas beaucoup à l'écrit les témoignages de ces femmes. Donc pour nous, c'était important d'avoir ce complément sonore où vraiment on peut prendre le temps pendant une demi-heure de les écouter et de comprendre quel était leur quotidien.
Merci Juliette Cabasso-Roger pour ces quelques éléments complémentaires d'éclairage à votre documentaire sonore et sûr des femmes cobayes en errance médicale qui a été réalisé en partenariat avec JET. À suivre dans un instant, Pensée locale, des reportages de 5 minutes proposés par la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire, puis l'émission Rock à la Casbah. Bonne soirée sur JET.
Mégaphone.
Le magazine de la rédaction de JET.
Mobilisation
sociale et citoyenne.
Écologie,
économie sociale et solidaire. En pays nantais et au-delà.
Mégaphone.
Le magazine de la rédaction de JET.
Tous les mercredis à 18h et sur jetfm.fr.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Je rappelle que le secteur noyantais se trouve au nord-ouest du département du Maine-et-Loire, limitrophe avec l'Indre-et-Loire. Ces journées artistiques et littéraires noyantaises ont été créées par Chantal Rabouin et qui va se souvenir comment elle a eu l'idée de créer la première édition de ces journées artistiques et littéraires noyantaises.
Il y a plus de 10 ans, je voulais créer une manifestation où je pourrais réunir différents artistes, des peintres, sculpteurs, auteurs, du chantournage, parce que je trouvais que les gens, ils faisaient du travail mais vraiment magnifique et qu'ils restaient cachés dans l'ombre. Et moi, je voulais les sortir justement pour les faire découvrir et que tout le monde puisse venir admirer leur travail. D'abord, il fallait trouver un endroit pour pouvoir organiser. Et là, c'était plus difficile. Donc, j'ai quand même réussi à avoir le gymnase de Noyant. Mais pour l'installation, bon, j'ai rencontré quelques problèmes pour justement avoir la salle la veille. Comme c'est une salle de sport, donc le sport était prioritaire sur ma journée artistique. Et maintenant, j'ai changé d'endroit et je suis dans une salle des fêtes où ça s'y prête très bien.
La culture, difficulté en milieu rural, on est dans un secteur où la population est vieillissante. On a un peu de difficulté à drainer le public.
Oui, c'est très difficile et c'est dommage parce que c'est quand même, la culture c'est très varié et c'est vrai que les gens ont du mal à venir se déplacer, voir ce qui est beau, parce que la culture, faut pas oublier, c'est quand même quelque chose qui est très beau.
Vous avez l'impression que les gens dans le Noyantais lisent peu, sont pas attirés par le livre?
Oui, malheureusement, les gens lisent de moins en moins. Bon, il y a les réseaux sociaux qui n'arrangent peut-être pas trop les choses. Mais c'est dommage parce qu'avec le livre, on peut voyager, on peut faire beaucoup de choses sans se déplacer.
Alors, vous êtes vous-même romancière. C'était aussi l'occasion de pouvoir présenter ces ouvrages. Et vous avez fait de nombreuses connaissances au cours de ces 6 années.
Oh oui, d'énormes connaissances. Souvent, les gens viennent me voir à ma table, me disent « Tiens, j'ai déjà acheté tel livre. » Mais moi, je vois tellement de personnes que je ne sais plus trop. Voilà, mais c'est ça fait plaisir parce que ça m'encourage à continuer d'écrire, à continuer de rencontrer les gens. Les gens viennent d'un peu partout, que ce soit la Sarthe, l'Indre-et-Loire, donc, et puis beaucoup dans le Noyantais, mais oui. Et les gens s'y retrouvent. Ils ne voient pas que des peintures ou des livres, ils voient beaucoup de choses. C'est vrai, moi, à chaque fois, je demande toujours à la personne qui achète si elle veut que je lui fasse une dédicace. Et je n'ai pas de refus à chaque fois.
Si on se projette dans l'avenir, 10e édition, comment vous la voyez, cette 10e édition ?
Peut-être pas dans une salle, peut-être si je pourrais accéder vers un château avec peut-être les peintures à l'extérieur, si c'est possible. Et à l'extérieur, avec des grands barnums ou voir un chapiteau. Et je trouve que ça serait très bien, ça ferait vraiment artistique. Bon, maintenant, il faut que je fasse mes démarches.
Au niveau des élus locaux, est-ce qu'ils sont présents dans la démarche de la littérature en pays noyantais ?
Pas tous, non, c'est dommage. Bon, il y en a quand même qui participent, mais non, pas tous. Par exemple, sur 14 maires de Noyant Village, j'en vois peut-être 4 ou 5 à chaque fois. Mais c'est pas grave.
La communication au niveau de ce salon, c'est important. Communiquer pour faire venir les réseaux sociaux, la radio, le journal.
Voilà, oui, c'est très important la communication parce que si on n'en fait pas, les gens ne viennent pas, ils ne sont pas au courant. Donc on fait beaucoup, beaucoup de démarches pour justement communiquer avec les gens.
Est-ce que vous avez un rêve au niveau de ce salon, à part intégrer un château, est-ce que vous envisageriez autre d'autres choses comme animation ?
Peut-être, oui, avoir d'autres artistes qui pourraient peut-être me proposer, peut-être, de la danse, faut voir. Toutes les propositions sont bonnes à prendre, mais oui, je voudrais encore des nouveautés.
Merci beaucoup. Nous étions avec Chantal Rabouin pour parler des journées artistiques et littéraires noyantaises. Nous sommes rendus à la 6e édition. Plus de 40 exposants. L'entrée est gratuite pour accéder à cette exposition. Auteurs, peintres, photographes, dessinateurs, souffleurs de verre sont au rendez-vous à l'occasion de ces journées artistiques. Pays noyantais, journées artistiques et littéraires. Il faut bien préciser. Il ne
faut pas oublier littéraire.
Merci beaucoup.
Je vous en prie, merci.
Michel Boutreux, RPC FM.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Mégaphone.
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation
sociale et citoyenne.
Écologie
sociale, économie sociale et solidaire en Pays nantais et au-delà.
Mégaphone.
Le magazine de la rédaction de Jet.
Tous les mercredis à 18h et sur jetfm.fr.